Radio Okapi.
Le journal à la présentation, Billy Ivan Lutumba.
Angoisse, émoi, consternation, affliction, les mots sont beaucoup plus les plus douloureux pour signifier ce que les habitants de Kassimdi expriment ce lundi au lendemain de l'attentat dans l'église de la 8e CEPAC. En ouverture de ce journal, une description de la situation ce matin. Le Forum économique mondial de Davos, édition 2023, s'ouvre ce lundi 16 janvier. La RDC y est représentée par son président ainsi que quelques ministres. Dans ce journal, quelques grandes lignes de cette rencontre internationale. Waswalila Tongetière, chef de la direction provinciale FEC Maniema, intervient en fin de cette édition comme invité. Il revient sur la hausse du prix du ciment gris au Maniema. Un sac de 50 kilos coûte ce jour 50 dollars. Et en vous maintenant sur les diverses fréquences de Radio Okapi, vous en saurez davantage, fidèles auditeurs. Bienvenue et bonjour à toutes et à tous. Nord Kivu, pour commencer, la cité frontalière de Kassindi s'est réveillée sous une forte émotion ce lundi matin après l'attentat meurtrier de ce dimanche à l'église de la 8e CEPAC. Les familles qui attendent les corps pour le deuil sont réconfortées par la présence des autorités dans la région. Pendant ce temps, les services de sécurité s'activent à mettre la main sur les auteurs de cet attentat. Marc Marofimbo pour des précisions.
C'est une grande tristesse qui s'est lisée sur les visages des habitants de Kassindi ce matin. Ces derniers ont envahi dès la première heure l'hôpital général de cette cité où les corps des leurs sont gardés depuis hier. L'émotion est grande, comme l'expliquent certains qui ont accepté de s'exprimer.
On est là, on est à l'hôpital général, les autorités sont là. C'est compliqué, il y a même des corps de petits enfants.
Disons qu'on va enterrer aujourd'hui, mais on ne sait pas encore si on va enterrer ensemble, quand on va donner chaque corps à sa famille, on ne sait pas encore. Jusque là, on n'a pas encore vu même les corps.
Les représentants légaux de cette église qui compatit avec ses fidèles en provenance de Suède leur demandent d'être calmes et d'attendre la suite des enquêtes initiées par les services de sécurité. Safari Mateso.
Nous déplorons cette situation. Je demande à tous les chrétiens de la CEPAC de garder calme. J'espère que l'État est en train de s'en occuper. Nous prions le Seigneur pour que les âmes des églises disparu, se repose en paix.
Signalons qu'une forte délégation du gouvernement provincial avec à sa tête le gouverneur militaire du Nord Kivu est arrivée à Kassindi ce matin pour assister à l'enterrement des victimes de cet attentat terroriste et réconforter cette population pendant ce moment tragique. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Réagissant à l'attentat terroriste de ce dimanche à Kassindi, le Parlement des enfants de Beni, coordination du Grand Nord, demande qu'une enquête sérieuse soit diligentée afin de dénicher les auteurs de cet acte odieux. Cette structure de défense des droits de la jeunesse qui regrette la mort de 4 enfants dans cet attentat demande que justice soit faite aux victimes et que les auteurs subissent la rigueur de la loi. Enoch Kambale Saïkonia, porte-parole du Parlement des enfants du Béni, est au téléphone de Marc Marofimbo.
Nous condamnons fermement cet acte terroriste et appelons à la solidarité nationale pour barrer la route à ces criminels sans foi ni loi. Et recommandons à toute la communauté de l'Est d'être plus vigilante car l'ennemi est entre nous, déterminé et motivé pour créer des désastres et endeuiller nos populations comme bon lui semble. À l'État congolais de diligenter les enquêtes sérieuses pour que les auteurs soient connus et qu'ils répondent de leurs actes devant la justice afin que ce cycle infernal s'arrête. Nous plaidons pour l'organisation des procès publics à l'égard de ceux qui ont assassiné nos compatriotes pour que la justice soit rendue.
Signalons que le bilan actuel, selon des sources médicales, fait état de 13 morts, dont 4 enfants et 6 femmes, ainsi que 64 blessés, dont 9 qui ont été évacués la nuit dernière à l'hôpital général de Beni pour les soins appropriés. En rapport toujours avec cet attentat survenu hier dimanche, des réactions du docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018. Et dans sa déclaration du 15 janvier 2023, Denis Mukwege oriente ses pensées aux victimes de l'attentat à la bombe commis en plein culte dans l'enceinte de l'église de la 8e communauté des églises pentecôtistes en Afrique centrale, CEPAC, dont il est lui-même l'émanation. D'après Denis Mukwege, le mode opératoire de cet attentat ignoble laisse à penser qu'il s'agit d'une attaque des extrémistes des ADF affiliés l'État islamique qui terrorise les habitants du territoire de Beni. Le prix Nobel invite la nation entière à se lever pour exiger le retour de la sécurité dans les provinces en conflit et mettre fin à la culture de l'impunité qui alimente la répétition des atrocités contre les populations civiles. Actualité toujours dans la partie est du pays, territoire des Rutshuru. À présent, une accalmie apparente s'observe ce lundi matin dans le groupement Tongo, chefferie de Bwito. Hier dimanche, des accrochages ont été signalés dès 11h et 14h locales entre le M23 et les groupes d'autodéfense. Cela s'est passé à Mudugudugu, Rusek, Kera, Birenga et Kitoyovo. Des sources dans cette région indiquent que le M23 garde toujours le contrôle de ses positions dans la chefferie de Bwito. D'ajouter que cette rébellion continue de renforcer ses positions en hommes et munitions à Bwiza notamment. À Ituri, le bilan des tueries de Nyamamba et Mbogi le vendredi dernier est vu à la hausse. Il passe de 13 à 31 personnes assassinées pour la plupart à l'arme blanche par les miliciens de Codeco dans ces entités situées au bord du lac Albert. Les corps de ces habitants ont été inhumés hier dimanche par un groupe de jeunes après le déploiement depuis le week-end des militaires des FRDC dans la zone. Une présence des forces loyalistes qui a permis à de nombreux autres civils qui fuient en bus après une attaque de sortir de leur cachette. Toujours dans la province de l'Ituri, une personne a été tuée et quatre autres grièvement blessés par des rebelles Codeco à Boura et Camp Plateau, deux villages du groupement Djougou Centre. C'était dans la soirée d'hier dimanche, chef-lieu du territoire des Djougou. Selon la société civile, des bandits armés identifiés aux éléments miliciens de la Codeco ont d'abord emporté des biens à un dépôt avant de les saccager. Un malade qui s'y trouvait a été blessé à l'arme blanche. Puis, ce groupe d'hommes s'est dirigé dans le village voisin de Camp Plateau où ces personnes ont tiré sur une jeune fille enseignante de son état. Elle est décédée quelques minutes plus tard dans sa fuite. Parmi les trois blessés, on retrouve un mineur de 13 ans et une femme touchée à la tête. La population en débandade s'était momentanément rassemblée à l'état-major de la police pour se mettre à l'abri, renseigne des sources de sécurité. Deuxième titre de ce journal. Le président de la RDC accompagné des ministres des Finances, Environnement et Mines sont arrivés en Suisse dimanche 15 janvier. C'est pour participer du 16 au 20 janvier au Forum économique mondial de Davos. L'édition 2023 est organisée sous le thème de la coopération dans un monde fragmenté. Elle réunira des chefs d'État et de gouvernement ainsi que plusieurs centaines d'économistes, chefs d'entreprise et activistes de la société civile pour aborder l'état du monde et discuter des priorités pour l'année à venir. Explication de Cynthia Bachizi.
C'est depuis 1971 que les principaux responsables économiques et politiques du monde se retrouvent chaque année à la station de Davos en Suisse. Objectif, analyser et examiner les nombreux défis auxquels le monde est confronté et trouver des pistes de solutions par le biais de la coopération publique-privée. Et l'une des préoccupations majeures du monde actuellement est la transition énergétique dans un horizon à court terme. Une action qui dépend de la disponibilité des ressources minérales dites stratégique et des infrastructures appropriées. C'est justement au cours du panel qui tablera sur cette problématique que le président de la République prendra la parole. La RDC a le coltan, les lithiums, le cobalt, incontournable pour la transition énergétique à l'échelle mondiale. Et le pays souhaite concrétiser son projet de construction d'une usine de batteries pour voitures électriques. Mais les défis sont encore de taille. Infrastructure, énergie, c'est là tout l'enjeu de la participation du président de la République à cette réunion annuelle. Une opération séduction pour attirer des investisseurs qui viennent en masse à Davos. En effet, plus de 600 patrons d'entreprises seront présents, soit un participant sur quatre, ont annoncé les organisateurs.
L'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain en Serre fait appel à l'expertise en énergie de SACIM pour la construction d'une centrale hydroélectrique sur chute Bombo, sur les chutes de Bombo à environ 15 km de Kananga. Un expert de cette société qui a construit la centrale hydroélectrique Toubitoubidji sur la rivière Loubi au Kassai oriental a visité le site ce week-end. Déjà, Anser qui planifie le début des travaux le mois prochain sur Chute Mbombo assure que les fonds sont déjà disponibles. François Kadima nous en parle.
Ce projet de construction d'une centrale hydroélectrique sur Chute Mbombo est estimé à près de 35 millions de dollars américains. Ces fonds sont déjà disponibles à la suite des études de faisabilité menées sur le site, a indiqué le coordonnateur pour le Grand Kassai de Anser. Damien Tambilangane l'a dit sur le site.
Nous sommes sur une très très bonne voie. On ne souffre pas de la contrainte financière. On ne souffre pas de la contrainte technologique. Aujourd'hui, ce serait peut-être un peu la lourdeur administrative. Nous nous donnons les moyens pour vaincre ça.
Le représentant représentant de la société chinoise qui a visité Chute Mombo a rassuré en sert de l'expertise disponible pour construire une centrale hydroélectrique sur Mombo. Celle-ci, selon la planification d'Anser, devra être en mesure de produire 12 MW du courant électrique. Le souci est d'alimenter Kananga et ses périphéries, explique Damier Tambedangane d'Anser.
Nous tirons la ligne de Mombo jusqu'à Kananga et nous allons alimenter la ville et puis bien sûr toutes les zones périphériques. Au-delà de ça, avec l'autre programme que nous avons des projets d'urgence, nous implémentons des centrales solaires et hydroélectriques à proximité des populations, dans les territoires.
Selon la planification, les travaux s'y débutent le mois prochain. Prendront 18 mois. De Kananga, François Kadima, Radio Kapi.
Merci bien François. Dans la province de Lomami, plus de 50 personnes en provenance de Mbujima et vers Lubumbashi passent la nuit à la belle étoile dans la ville ferroviaire de Mweneditu depuis bientôt une semaine. Ces voyageurs sont bloqués à Mweneditu par quelques personnes membres d'une agence des commissionnaires dénommée Aigle qui, tout en leur promettant d'assurer le voyage de Mbujima à Lubumbashi par véhicule dans un bref délai, leur a fait payer tous les frais de voyage. Le week-end dernier, un membre de cette agence qui les a escortés de Mbujima à Mweneditu a été arrêté au niveau de la mairie de Mweneditu pour restituer les frais de voyage. Des explications avec Esther Ndalafina.
D'après les victimes de cette sale besogne, les membres de l'agence dénommée Aigle basée à Mbujimaï ont enregistré depuis la semaine dernière plus de 50 personnes qui se rendaient par véhicule à Lubumbashi. Avant de prendre place à bord d'un camion samedi dernier à Mbujimaï, chaque voyageur a été contraint de payer la totalité des frais de transport. Témoignage d'une des victimes. Il y a ceux qui ont payé 125 000 francs congolais, 200 000, 85 000. Nous souffrons à cause de la faim. Nous ne savons pas où dormir. Il y a des femmes, des enfants et des vieux. Arrivé à Mweneditu, le commissionnaire les a hébergés dans un dépôt, tout en leur promettant de les faire voyager par véhicule ou par train, mais sans succès, comme le confirme un autre voyageur.
Le monsieur a pris fuite depuis le dimanche soir. En passant sur la moto, on a rattrapé le monsieur hier. Le monsieur a pris fuite pour entrer dans le dépôt dont il nous avait logé. Nous autres, on passait nuit avec des mamans et des enfants. On a passé une vie de vache maigre. Une vie là très critique pendant 4 jours. L'État est arrivé hier à 22h. Il est refusé pour sortir de la maison.
Après 4 jours de disparition, le commissionnaire a été retrouvé et conduit au cachot de la mairie de Mweneditu. Les victimes affirment que la solution n'a pas été trouvée, ce que rejette le commandant de la police de la mairie de Mweneditu. Esther Ndalafina, Mbujimaï, Radio Okapi.
Parlons à présent de l'opération d'identification et enrôlement des électeurs dans la province du Kwilu. Plusieurs requérants rencontrés dans certains centres d'inscription de la CENI à Bandundouville dénoncent le monnayage de la dite opération. D'après eux, certains membres de ces centres d'inscription ainsi que les agents de l'ordre commis pour la sécurisation de cette opération favorisent les requérants qui leur payent une somme allant de 1000 à 2000 francs congolais ou plus afin de se faire enrôler rapidement et cela en défaveur de ceux qui n'en ont pas. Du côté de la CENI Kwilu, le responsable appelle les victimes à apporter les preuves de monnayage à la CENI pour que les auteurs soient sanctionnés. Le point avec Irène Beaumont.
Si vous manquez l'argent, il est difficile pour vous d'accéder dans la salle d'enrôlement malgré votre présence pendant plusieurs jours devant certains centres d'inscription de la ville de Bandundu ou malgré votre ordre d'arrivée. Il faut donc glisser quelques billets de banque entre les mains des membres de ces centres d'inscription ou des agents de l'ordre afin d'entrer rapidement et obtenir votre carte d'électeur comme le dénoncent certains requérants.
Si tout le centre Mungus y a tant de désordres, avant de s'enrôler, il faut d'abord donner le 1000 francs aux policiers, puis même les agents de la CENI. Les vieilles mamans, ils n'ont pas même le 1000 francs pour donner. Alors, il fait 2 à 3 jours sans toutefois prendre les cartes. Alors, on ne sait pas comment est-ce que nous devons faire.
Pour sa part, le secrétaire exécutif provincial de la CENI, Kwilu Jean-Robert Moyens, rappelle que l'opération d'enrôlement des électeurs est gratuite. Il appelle les requérants à dénoncer tout monnayage à la CENI afin que les coupables répondent de leurs actes.
Ces personnes qui viennent dénoncer devant la presse, est-ce qu'elles ont-elles de preuves? Quand quelqu'un vous demande de l'argent, ils n'ont qu'à apporter ces preuves-là à la CENI. Avant de les sanctionner, on doit d'abord l'écouter. Les faits sont établis, l'argent est immédiatement sanctionné.
Selon Jean-Robert Moyens, le monnayage de l'enrôlement constitue l'une des antivaleurs prohibées par l'éthique et la déontologie de l'agent électoral. Irène Beaumont, Bandundouville, Radio Okapi.
Actualité internationale.
4 gendarmes maliens ont été tués et 3 blessés dimanche dans une embuscade dans l'ouest du pays sahélien en proie aux attaques djihadistes, a indiqué la gendarmerie. Deux véhicules de gendarmerie ont été brûlés et deux autres surmontés des mitrailleuses ont été capturés par les assaillants lors de cette opération menée à Kuala, a-t-elle ajouté. Deux assaillants ont été tués et d'autres faits prisonniers. La gendarmerie n'a pas précisé dans son message à qui l'attaque était attribuée. Les gendarmes comme l'armée, les forces étrangères et tout ce qui représente l'État sont la cible des groupes djihadistes. Huit personnes ont été tuées dans un attentat à la voiture piégée revendiquée par les islamistes Shebab dans le centre de la Somalie où une offensive d'envergure est en cours pour reprendre du territoire djihadiste. L'attaque s'est produite samedi après-midi à Burlobird, une ville de la province d'Iran où les forces gouvernementales et des clans locaux combattent les insurgés liés à Al-Qaïda depuis début juillet. Un homme a fait exploser une voiture près d'un bâtiment administratif, a déclaré un responsable de la police locale.
L'invité.
Comme invité, nous recevons le chef de la direction provinciale de la FEC Maniema. Il nous parle de la hausse du prix des ciments griots Maniema, un sac qui se vend actuellement à $50, contrairement il y a deux mois où on vendait ce même sac de ciment à $20.25 américains. Wasso Lila Tongue-Pierre s'entretient avec Florence Kizalonga.
Monsieur Wasso Lila Tongue-Pierre, bonjour.
Bonjour madame.
Les sacs de ciment coûtent à ce jour $50. Êtes-vous au courant de ces prix?
Nous sommes au courant, madame, parce qu'au sein de notre groupement provincial de la FEC Maniema, nous avons des membres qui vendent au quotidien les ciments.
Comment expliquer qu'on soit parti de $20-$25 à $50 aujourd'hui?
La cause principale de cette hausse vertigineuse des ciments gris au Maniema est le niveau de dégradation très avancé de nos infrastructures. Vous savez, toutes les infrastructures au Maniema sont dans un état de dégradation très avancé. Quand vous prenez par exemple la route Kisangani-Ubundu, qui nous amène des ciments à Kindu, elle est dans un état de dégradation très avancé. Vous prenez la route Kindu-Bukavu, c'est la même chose. Vous prenez les tronçons rail de Kindu-Kalemi, il est aussi dans un état de dégradation très avancé. Et cela explique que les prix de transport de cette marchandise a sensiblement haussé. Et l'opérateur économique, parce qu'il ne peut pas faire autre chose, c'est que de répercuter toutes les charges qui lui sont appliquées lors des transports de ces marchandises au niveau des prix d'achat. Voilà pourquoi il y a cette hausse vertigineuse que vous décriez aujourd'hui.
Vous parlez de dégradation des infrastructures. Parlez-nous un peu de circuit d'approvisionnement en ciment dans la province de Maniema et plus particulièrement à Kindu.
Oui madame, chez nous à Kindu, il y a trois voies principales qui nous amènent les ciments à Kindu. Il y a d'abord le ciment qui vient de Kinshasa, transite par Kisangani, et cela doit prendre la route de Kisangani jusqu'à Ubundu, et Ubundu, ça prend les bateaux jusqu'à amener les ciments à Kindu. Il y a aussi l'axe routier, Kindu Bukavu, cela aussi nous amène des ciments, et aussi il y a des ciments qui quittent Tanzanie et transitent par Kalemi, et cela doit prendre les chemins de fer. Et vous savez que les chemin de fer aujourd'hui est dans un état aussi de dégradation très avancée, ce qui conduit à des déraillements et aussi la carence des locomotives. Voilà, et le trafic a sensiblement baissé sur cet axe aussi.
Il y a une décision du ministère de l'économie qui court jusqu'au mois d'avril supprimant la TVA sur les matériaux de construction, dont les ciments aussi. Est-ce que les opérateurs économiques de Kindu en tiennent compte?
Les opérateurs économiques de Kindu en tiennent compte. Et vous allez même remarquer dans leurs états financiers, ils appliquent ça comme c'est recommandé par les ministres des Finances. Seulement que la TVA par rapport aux coûts qu'ils sont en train d'engager au transport de ciment à Kindu, c'est moins significatif. Voilà pourquoi vous ne sentez pas vraiment l'impact de cette suppression de la TVA sur les matériaux de construction.
Qu'est-ce que vous proposez pour résoudre ces problèmes?
D'ailleurs, nous vous informons que lors des passages du ministre des Transports et Voies de Communication à Kindu, nous avons rédigé un mémorandum reprenant toutes les préoccupations des opérateurs économiques du Maniema en rapport avec les difficultés liées au transport des marchandises. Et là, nous avons estimé qu'il fallait réhabiliter en toute urgence les voies de communication qui approvisionnent la ville de Kindu en produits de première nécessité. C'est la seule solution. Mais quand les gouvernements, tant provincial que national, laissent les opérateurs économiques abandonnés à leur triste, vous ne pouvez que constater la hausse des prix de ces matériaux que vous décriez aujourd'hui.
Mais il y a un certain moment où vous, les opérateurs économiques, ensemble avec le gouvernement, vous avez entamé les travaux sur la route, les tronçons Ubundu-Kisangani. Où en sommes-nous avec ces travaux?
Les travaux étaient suspendus par manque de financement et les pourparlers sont en cours pour voir dans quelle mesure les protocoles d'accord peuvent être signés entre les opérateurs économiques et le gouvernement provincial de la Tchopo. dans quelques jours, nous tiendrons à informer les opérateurs économiques des dispositions qui seront prises par rapport à la reprise de ces travaux.
Et vous pensez que cette situation de ciment peut prendre combien de temps dans la province du Maniema?
Bon, nous ne pouvons pas vous donner le temps, madame, parce que ce ne sont pas les opérateurs économiques, ce n'est pas la FEC qui réhabilite les routes.
Mais nous apprenons qu'il y a parmi les opérateurs économiques qui exagèrent dans la fixation du prix.
C'est un mensonge, madame, parce qu'il y a un service de l'économie qui est chargé de surveiller les structures des prix. Et le ciment n'est pas exempté de cette obligation. S'il y avait des opérateurs économiques qui se livreraient à la hausse anarchique des prix, ils tomberaient sous les coups des services de l'économie.
Mais il y a aussi d'autres qui arrivent même à diminuer la quantité et à cela, ils acceptent facilement 47$, 48$. Vous niez aussi ça?
Madame, ce sont des informations qui ne sont pas portées à notre fédération. Nous ne sommes pas au courant de ça. Jusque là, nous considérons que ce sont des allégations pour cacher les vrais problèmes de la hausse vertigineuse des prix des ciments au Maniema.
Merci, Wassoli Lantongue. Merci.
Merci, madame.
À vous, auditeurs, nous disons aussi merci d'avoir suivi ce journal préparé par Élisée Ticoté et l'ensemble de la rédaction. Jean-Claude Thiel a assuré la prise des soins et la mise en onde. Et Billy Yvan Lutumba vous l'a présenté. Prochain rendez-vous avec notre point d'actualité, c'est tout à l'heure dans 40 minutes avec Pascal Massirica.